se rafraîchissent la mémoire. Mais normalement, c'est à vous de le faire, le résumé, puisque ceux qui étaient là doivent savoir ce qu'on a dit. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire un petit résumé? Ou est-ce que je vais être obligée de le faire? Parce que, n'empêche que quelque chose qui a été transmis, normalement, puisque oui. C'est le thème, normalement, elle devrait pouvoir être restituée. C'est-à-dire qu'on devrait... surtout que tout le monde a noté, tout le monde a des papiers. Donc, en plus, avec le support écrit, tout le monde devrait pouvoir dire quelque chose d'important de ce qui a été dit la fois dernière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, parce que je vois qu'on est perdu.
Non, je vais laisser revenir.
Très bien, vas-y, Père.
C'est vrai que ça, j'ai l'impression...
Non, moi, j'avais envie de dire deux trucs, mais qui seront sans doute extrêmement partiels. C'est que, globalement, la tradition, c'est quand même plutôt vieux, quoi.
Ouais.
Comme truc, hein. Mais quand je dis ça, c'est que effectivement, c'est des choses qui s'inscrivent dans les pères, dans les premiers siècles de l'Église. Et moi, ça m'a parlé en ce sens que ça m'a renvoyé à ce que tu avais évoqué, qui est dit en toutes occasions à propos de la tradition, c'est-à-dire, je crois que c'est Saint-Vincent de Lérins, hein, la tradition, c'est ce qui est vrai pour tous, toujours et partout. Et c'est ces trois mots qui sont vraiment très importants, parce que on peut avoir parfois, et ça c'est ce que ça me dit, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que ça me dit au cœur, le sentiment que la tradition, ça pourrait être un peu ce qui nous plairait à un moment donné et qui pourrait évoluer comme ça. Voilà. Et c'est bien de le recentrer dans le contexte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est donc très partiel.
Non, c'est un morceau de
voilà.
Ce qui a été... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on avait commencé par la tradition générale, les traditions familiales, les traditions de nos pays, etc. Et puis ensuite, on est entré dans qu'est-ce que c'est que la tradition de l'Église, et on a parlé de la problématique de la tradition orale. Merci. La tradition orale. Et on a expliqué qu'effectivement... Il semble pour nous que la tradition part du texte de la Bible et de l'Évangile pour nous chrétiens. Et en fait, on s'est aperçu que la tradition, elle est antérieure, puisque c'est la tradition, c'est-à-dire la vie vivante de l'Église depuis le Christ, qui choisit les textes de ce qu'on appelle le canon, qui choisit les textes en disant voilà, ça c'est canonique, ça ne l'est pas. Et donc il y a tout un jeu entre guillemets écrit et oral. Que l'oralité précède toujours l'écrit, non seulement dans les premiers temps, mais jusqu'à aujourd'hui. L'oralité, c'est la vie qui se transmet oralement. Donc ça, c'est très très important. Et qu'ensuite, on avait dit par rapport à l'écrit, qu'il y avait des écrits faux qui avaient circulé dans les églises, enfin dans les pseudo-églises, les gnostiques, etc. Et que donc, il a fallu très rapidement, dès le départ, faire le tri. Et que ça, c'était encore la tradition, c'est-à-dire les saints-pères, qui ont fait le tri. Et puis après, on avait lu un certain nombre de documents sur l'oralité qui précède l'écriture, la tradition des apôtres qui s'appuie sur les écritures, qu'il ne fallait pas fausser les règles établies. Et voilà, en gros, est-ce qu'il y a des éléments importants? Voilà, on avait développé hein, comment les saints-pères avaient fait le tri par rapport aux fausses choses qui circulaient. Et que la tradition, en fait, elle a été nécessaire de se préciser à cause des erreurs, des hérésies et des groupes plus ou moins... plus ou moins gnostiques qui ont émergé dans les premiers temps. Et on avait dit que toutes ces erreurs, tous ces groupes gnostiques, toutes ces fausses gnoses et ces fausses croyances étaient présentes dès les premiers temps, sont présentes dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et que même si elles ont d'autres noms, en général c'est à peu près les mêmes. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple le New Age, qui était un mot qu'on n'employait pas au premier temps, ça s'appelait le gnosticisme, ça s'appelait les valentiniens, les ébionites, etc. Et les martionites et tous ces groupes un peu bizarres. Bon voilà, en gros, c'est ça qu'on avait à peu près dit. Et on avait terminé avec Vincent Deyrens, donc ce que vient de rappeler Père Georges, sur ce communautorium, hein, qui est vraiment un des écrits fondamentaux. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un écrit d'un latin du 5e siècle. Et Saint Vincent Deyrens, c'est vraiment pour nous très important parce que bien qu'il soit latin, donc on pourrait dire nous orthodoxes et tout ça, et ben non, ça veut bien dire que l'Église latine, elle est aussi orientale que l'Église d'Asie ou l'Église d'Orient. Elle est aussi orientale dans les premiers siècles, c'est sûr. Que toute l'Église en fait au départ est orientale. C'est après le 12e siècle, surtout avec Saint Thomas d'Aquin, et puis la réforme et contre-réforme, que les choses ont très nettement changé par rapport à l'origine.
D'ailleurs, on dit que la liturgie entre guillemets gallicane des premiers siècles était très inspirée par tout ce qui était syrien.
Absolument, oui.
Après, je ne sais pas dans quelle forme, qu'est-ce que ça pouvait donner, mais...
Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que... est-ce que vous avez rapporté votre feuille? Parce qu'il y avait deux, trois petites choses qu'on n'avait pas vues, parce que je voulais qu'on garde pour une deuxième séance, qui est celle d'aujourd'hui, toute la problématique de la formulation de la foi. Donc la formulation de la foi fait partie de la tradition. Pourquoi on a un credo tel qu'on l'a aujourd'hui dans toutes les églises ou presque, bien qu'il soit malheureusement un peu modifié du côté des latins? Qu'est-ce que c'est que cette formulation de la foi? Pourquoi finalement on a décidé que c'était comme ça? Et pourquoi c'est la foi de l'Église? Voilà. Donc ça, on va l'expliquer un peu plus, et puis on va s'appuyer sur les textes des Pères. Et puis donc on va essayer de continuer sur qu'est-ce que c'était la vie de l'Église dès les premiers temps, qui fait que l'Église c'est toujours l'Église. Voilà. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que si on se retrouve demain dans la jungle, au fin fond voilà, et puis qu'il y a une église comme ça perdue, voilà, si on entre dans cette église, est-ce qu'on peut, mais instantanément, dire on est dans une église qui est canonique, voilà, on est vraiment dans l'église, ou on est dans un espèce de truc un peu sec, voilà. Est-ce que d'instinct on peut le sentir? Parce que justement, on a en fait l'Église, on l'a incorporée en nous, quoi. On a incorporé toute cette tradition. Donc ça me paraît très important. Alors, est-ce que vous avez on va peut-être commencer tout de suite par lire dans le polycopier numéro 2. Donc, ce que je vous ai mis au début dans ce polycopier, c'est vraiment les pères les plus anciens, parce que je pense que c'est ça qui me frappe toujours. C'est Ignace, il écrit la lettre aux Traliens probablement en l'an 106 ou 107, donc vous savez qu'il a été mort martyr à Rome, et que c'est sur le chemin entre l'Asie mineure et Rome où il écrit régulièrement aux églises. Et donc il écrit aux Traliens juste avant d'être livré aux bêtes, martyr. Et moi, ce qui me frappe, c'est que donc on est à quelques années après l'écriture de l'évangile de Jean. Et que finalement, ces lettres d'Ignace, elles auraient très bien pu, quelque part, entrer dans le canon du Nouveau Testament. Parce que quand on les lit, on voit bien qu'on est dans la même... dans le même esprit que les lettres de Paul et d'autres épîtres, hein, du Nouveau Testament. Alors, juste pour essayer de comprendre comment la formulation de la foi, dès le début, dès la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, finalement, est la même que celle qu'on a aujourd'hui, même si elle est embryonnaire. Il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que l'Église n'a jamais rien inventé, jamais. Depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'invente rien. L'Église ne fait que développer, expliquer. C'est thème et variation, infini, mais c'est toujours le même thème. Donc la foi, elle est identique depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Donc il faut développer pour qu'on comprenne. Et au fur et à mesure du développement, il y a des choses qui se sont fixées, donc c'est ça qu'on appelle aussi la tradition. Donc on va essayer de comprendre le lien entre tradition et dogme, et on va essayer de comprendre pourquoi, entre guillemets, le dogme n'est pas quelque chose qui nous enferme, mais quelque chose qui nous libère. On va essayer de montrer la libération. Un peu ce qu'on a essayé d'expliquer la dernière fois, que la tradition, c'est pas un truc qu'on est obligé d'entrer dans un moule tout fait. C'est un cadeau que l'Église nous donne depuis le départ, elle nous donne un cadeau, et puis chaque génération va y mettre quelque chose qui va rajouter pour sa génération, pour que là, sa génération, dans son langage, hein, au XXIe siècle, on ne parle plus pareil que du temps d'Ignace. Pourtant, ce texte qu'on va lire au début du IIe siècle, eh ben, il nous est extrêmement contemporain. Donc c'est ça qui est génial, c'est que à la fois on parle plus pareil parce qu'on est dans un autre monde, un autre langage, on parle français, enfin bon, etc. Donc à la fois il y a ça, et à la fois les formulations mêmes nous sont tellement devenues connaturelles parce qu'on est fils de l'Église que du coup on se dit bah oui, bon, ça, moi ça me va. Je pourrais pratiquement le dire aujourd'hui au XXe siècle de cette manière-là. Alors on va commencer tout de suite par lire le texte d'Ignace. Parce que je voudrais essayer de vous expliquer un peu comment, dès Ignace d'Antioche, mais même avant, l'évêque, entre guillemets, va être vraiment celui qui va être le garant. Donc on dit toujours les saints-pères, mais bon, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas évêques, mais enfin, il y en avait beaucoup qui étaient évêques. Voilà. Et donc, l'évêque, c'est quand même celui qui est le garant de la transmission de cette tradition. Et ça, c'est pas pour rien qu'à chaque ordination, d'ailleurs, à diaconale, presbytérale et épiscopale, c'est qu'il garde la parole de la vérité. Celui qui garde la parole de la vérité et qui la transmet fidèlement à tous ceux dont il a la charge. Qu'est-ce qu'il veut lire, donc, l'Ignace d'Antioche, là ? Vas-y.
Ignace d'Antioche, 35-107, lettre aux Traliens, restez en communion, fuyez les hérétiques. Ignace, dit aussi Théophore, à celle qui est aimée de Dieu, le Père de Jésus-Christ, à l'Église sainte qui est à Thrale d'Asie, vivant en paix dans la chair et l'esprit par la passion de Jésus-Christ, espoir pour nous d'une résurrection qui nous conduira à lui. Je la salue en toute plénitude à la manière des apôtres et lui souhaite toutes sortes de joies. Je sais que vous avez des sentiments irréprochables et inébranlables dans la patience, non simplement pour l'usage, mais par nature, comme l'a appris votre évêque Polybios.
Alors, on fait tout de suite une petite pause, juste pour dire. Vous voyez comment Ignace lui-même, donc Ignace, il arrive juste après les apôtres. C'est la génération juste après. Il a connu les apôtres. Donc, première chose qu'il fait, donc il salue l'Église comme Paul pouvait saluer aussi l'Église dans ses lettres, et il dit, je salue en toute pénitence à la manière des apôtres. Voilà. Donc lui-même se réfère déjà, il n'y a qu'une génération. Vous voyez, donc vous sentez des espèces de manières de faire depuis le départ, il n'y a qu'une génération, mais le plus important c'est toujours de se raccrocher à ce qui est avant. Donc ça veut dire qu'on n'invente pas, il n'y a pas un truc sui generis comme ça qui sort de rien. Toujours on se raccroche, on est comme un maillon dans une chaîne. Continue.
Car quand vous vous soumettez à l'évêque comme à Jésus-Christ, je ne vois pas vivre selon les hommes, mais selon Jésus-Christ qui est mort pour vous, afin que, croyant à sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne rien faire sans l'évêque, mais de vous soumettre aussi au presbytérium, comme aux apôtres Jésus-Christ notre espérance, en qui nous serons trouvés si nous vivons ainsi. Il faut aussi que les diacres, étant les ministres des mystères de Jésus-Christ, plaisent à tous de toute manière. Car ce n'est pas de nourriture ou de boisson qu'ils sont les ministres, mais ils sont les serviteurs de l'Église de Jésus-Christ. Il faut donc qu'ils évitent comme le feu tout sujet de reproche. Pareillement, que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque qui est l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et comme l'Assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église.
Voilà. Donc, deuxième point ici, donc ça, Ignace, c'est un des premiers. Bon, Paul en a déjà parlé un peu, il a expliqué un peu qu'est-ce que c'est l'évêque. Hein, donc, en plus, c'est épiscopos, presbyteroi. Bon, les termes en grec sont un peu différents. Ils n'ont pas exactement le même sens qu'aujourd'hui. Mais avec Ignace, le sens va commencer à se fixer. Évêque, presbyterium, donc les prêtres et les diacres. Donc, on voit bien, il y a déjà les trois niveaux très clairs. Et on voit bien que tout se passe autour de l'évêque et il y a comme un sénat qui sont comme une assemblée autour de l'évêque et que c'est l'évêque qui va guider et que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas parler d'église. Donc ce qui est incroyable, c'est que c'est dès le 1er siècle et c'est jusqu'aujourd'hui comme ça. Donc c'est ça qu'il faut qu'on réalise, combien ça a traversé tout. Ça a traversé tout. Et je pense que c'est ça qui est génial dans la tradition, c'est que c'est pas quelque chose qui va passer comme un souffle et puis tout s'en va et puis terminé. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est enraciné très profond et qui va durer jusqu'à la fin du temps. Je pense que ça, c'est une force. Et plutôt que de se dire, oui, on ne fait que répéter, etc., c'est plutôt de se dire, mais en fait, tout autour de nous passe, mais il n'y a qu'une chose qui ne passe pas, c'est Jésus-Christ et son Église. Voilà. Donc, vous nous imaginez, quand on est relié à ça, on est fort, quoi. Hein, on est très, très fort. Continuons.
Non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ, à n'user que de la nourriture chrétienne et à vous abstenir de toute plante étrangère qui est l'hérésie. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leurs propres erreurs, en cherchant de se faire passer pour dignes de foi, comme ceux qui donnent un poison mortel avec du vin mêlé de miel, et celui qui ne sait pas le prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste, il absorbe la mort. Gardez-vous donc de ces gens-là. Vous le ferez en ne vous gonflant pas d'orgueil et en restant inséparable de Jésus-Christ, Dieu, et de l'évêque et des préceptes des apôtres. Celui qui est à l'intérieur du sanctuaire est pur, mais celui qui est en dehors du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors du sanctuaire n'est pas pur, c'est-à-dire que celui qui agit en dehors de l'évêque, du presbytérium et des diacres, celui-là n'est pas pur de conscience.
Voilà, alors en plus, voilà, donc il y a une chose qui est très claire, c'est comment j'agis quand je suis dans l'Église. Et si je suis dans l'Église, je n'agis pas tout seul. Je réfère à mon prêtre, parce que c'est le plus proche, ou au diacre, et puis à l'évêque. Donc il y a un consensus, il y a une adhésion personnelle d'une référence à celui qui va être garant pour la communauté. Donc c'est tout un apprentissage. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un monde individualiste dans lequel on est aujourd'hui, c'est pour nous, c'est un effort, parce qu'on a envie de faire notre petite cuisine. Mais en fait, cette manière de faire sa petite cuisine dans son coin, sans référer à personne, c'est là où nous, on n'arrive même pas à le réaliser, parce qu'on est dans ce monde, je veux dire, moderne, individualiste. Mais en fait, ça nous prive de toute liberté. Alors, on croit qu'on fait ce qu'on veut, et en fait, on est complètement privé d'une liberté qui est la liberté d'être ensemble. Et de vivre les choses ensemble, et justement pas de manière atomisée. Vous savez ce que c'est un atome, il est coupé de tous les autres. Et de tout seul, dans son coin, et puis finalement de... Voilà. Et si je fais quelque chose tout seul dans mon coin, je suis non seulement coupé de mon frère prêtre, évêque, etc., coupé de l'Église, et finalement coupé de toute cette tradition depuis les premiers temps. Donc si on réalise, mais c'est absurde. Mais on est tellement baigné dans ce monde moderne que du coup, on réalise même pas que voilà la grâce que c'est d'appartenir à une Église bimillénaire. Quoi.
Je vais vous mettre en garde, vous mes bien-aimés, prévoyant le juge du diable. Qu'aucun de vous n'ait rien contre son prochain. Ne donnez pas de prétexte aux gentils pour que, par le fait de quelques insensés, la communauté de Dieu ne soit pas blasphémée. Car malheur à qui, par sa légèreté, fait blasphémer mon nom. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé, qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi le Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Car si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire des infidèles, il n'a souffert qu'en apparence, il n'existe eux-mêmes qu'en apparence, moi, pourquoi suis-je enchaîné? Pourquoi donc souhaiter de combattre contre les bêtes? C'est donc pour rien que je me livre à la mort? Ainsi donc je mens contre le Seigneur. Fuyez donc ces mauvaises plantes parasites. Elles portent un fruit qui donne la mort, et si quelqu'un en goûte, il meurt sur le champ. Ceux-là ne sont pas la plantation du Père. S'ils l'étaient, ils apparaîtraient comme des rameaux de la croix, et leurs fruits seraient incorruptibles. Par sa croix, le Christ en passion vous appelle, vous qui êtes ses membres. C'est Dieu qui nous promet cette union, qu'il est lui-même. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse, en dehors de l'évêque, rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque, ou de celui qu'on aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque, ni de baptiser, ni de faire l'agape, mais tout ce qu'il approuve, cela est agréable à Dieu aussi. Ainsi, tout ce qui se fait sera sûr et légitime.
Donc vous sentez qu'on est dans, déjà à l'époque, dans une période où il y a toutes sortes de groupes. Donc on est dans un, déjà dans un milieu païen, il y a des juifs à côté, il y a toutes sortes de gnostiques, toutes sortes de groupes. Et donc il dit, il faut fuir ça, 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 ça. Il donne un peu les balises pour dire, bon, on est dans l'Église, on n'y est pas. Alors, on y reviendra là-dessus, parce qu'il y a quelques-unes phrases, mais ça, on reviendra dans une deuxième partie, vous m'y ferez penser pour ne pas oublier. Il y a quelques phrases qui montrent qu'on est bien avant les formulations des conciles. Des choses très, très précises. Donc, on voit bien que les formulations des conciles qui viendront à partir de 325, donc on est bien avant, on est au moins deux siècles et presque et demi avant, vont préciser des choses qu'Ignace ne peut pas préciser, parce que c'est avant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les conciles ne vont pas aller contre Ignace, les conciles vont reprendre les mêmes idées, mais vont affiner le vocabulaire. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous dis, il y a une sorte de précision, précision, précision. On est comme dans quelque chose qui va au millimètre près à un moment donné. Voyez, voilà. Qu'au départ, il y a une foi voilà, qui se dit dans le kérigme, et puis ensuite, petit à petit, qu'est-ce que c'est exactement cette foi et comment on va la nommer et comment tous les chrétiens baptisés vont entrer dedans. Donc je voulais juste qu'on lise ça un peu rapidement comme ça pour reprendre toute la problématique de l'évêque, c'est celui qui a reçu l'enseignement des apôtres, donc l'évêque à cette époque, il reçoit l'enseignement des apôtres, il est chargé de garantir la fidélité de la transmission et de former le peuple et de garder l'Église dans la ligne des apôtres qui eux-mêmes l'ont reçu de Jésus-Christ. Et donc c'est celui qui, dès l'Église ancienne jusqu'à aujourd'hui, va proclamer la parole de Dieu, la garder, la protéger, l'annoncer et avoir en fait le rôle de l'évangélisateur. Et si ensuite toute l'Église va évangéliser, c'est parce que c'est l'évêque qui va transmettre cette capacité d'évangélisation. Et donc ne jamais perdre de vue que la notion même d'évêque est intimement liée à cet aspect de transmission. Et ça on le perd de vue parce qu'on voit parfois le côté un peu administratif aujourd'hui. Et que donc cette proclamation de la parole de Dieu est celle normalement de l'évêque, et c'est lui qui doit veiller à ce qu'elle se propage et elle se transmette de manière juste. C'est la raison pour laquelle, en tout cas chez nous, dans l'orthodoxie, on ne fait rien d'important sans la bénédiction de l'évêque. Ce qui est logique, parce que si jamais, bon je veux dire, le sésor, il est sous la bénédiction de l'évêque qui a été...
Je peux vous rassurer tout de suite, nous avons officiellement les encouragements et la bénédiction de l'évêque à travers le père Georges, voilà. Aucun problème là-dessus.
Non, mais c'est un lieu canonique. Mais ça a l'air de rien, mais n'empêche que, non, voilà.
Tu fais cet aparté, mais, il vient d'écrire voilà, à Stéphane pour réaffirmer la bénédiction et les encouragements.
Donc ça veut dire que finalement, toutes les initiatives de tout chrétien sont bienvenues, mais il faut qu'elles soient vérifiées. Parce que sinon, ça peut aller dans n'importe quoi, et puis après, il y a des milliards de sectes. Quoi. Et la vérification de l'évêque, qui ne peut pas être là à chaque instant, donc qui délègue le prêtre, hein, en disant, bon voilà, le prêtre va veiller pour voir si on est bien dans la bonne tradition, si on ne raconte pas trop de bêtises.
Dis, effectivement, bon, maintenant, c'est un peu administratif, et c'est normal.
Oui.
Mais à l'époque,
voilà.
Au départ,
voilà. Il n'y a pas d'administratif.
Il y a une église pour ne pas dire, putain, ici, c'était réellement orthodoxe. Il y avait un évêque à Orange.
Oui.
Donc à la limite, c'est l'évêque serait là aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Mille ans en arrière.
C'était un prince évêque.
Ah non, non, moi je vous parle d'orthodoxie, il n'y a pas de prince évêque. L'évêque d'Orange, c'est Sainte-Eutrope, Saint-Florent, c'est des vrais pasteurs.
Ouais, non, mais c'est clair.
Ils sont d'ailleurs partis en déportation quand il y a eu les barbares qui sont arrivés. Il y avait à Saint-Florent encore la mosaïque avec l'évêque avec la croix devant une espèce de Gengis Khan. Voilà, et ils ont fini tous en Italie du Nord. Là.
Oui.
Voilà, là je vous parle vraiment des vrais pasteurs. Là.
Alors ensuite, la deuxième notion qui apparaît dès les origines, et ça nous paraît tellement évident qu'on ne réalise pas que c'est depuis le départ, depuis Clément de Rome. Clément de Rome, il écrit sa lettre en 95. Elle est pratiquement contemporaine de l'évangile de Jean, d'accord ? Donc c'est quand même... Et Clément de Rome, pareil, il a failli entrer dans le canon du Nouveau Testament. Et donc dès Clément de Rome, on a l'idée que cette parole de Dieu proclamée par l'évêque est vécue et transmise par la totalité de l'Église locale dans laquelle la parole s'incarne. Donc ça c'est très important, cette notion d'église locale qui est déjà toute l'église. D'ailleurs, entre guillemets, on a trouvé ici église catholique, donc je précise hein, évidemment, hein, mais on le sait, mais on le précise quand même, qu'il ne s'agisse pas de catholique au sens confessionnel du terme, mais on traduit du grec là, katholon, selon le tout, c'est-à-dire l'universalité de l'église. Hein. Donc l'église est universelle, elle est totale dans chaque église particulière locale. C'est fondamental ça. Ça, c'est un principe et qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, quand Irénée, et on l'avait lu la dernière fois, va citer les églises de Rome, d'Éphèse, de Smyrne, et qu'il nous montre comment la transmission de la parole passe de toutes ces églises, il montre en fait à la fois la catholicité, l'authenticité, l'orthodoxie dans chaque église locale. Et donc c'est cette authenticité, cette universalité qui va faire l'union des saintes églises de Dieu, dont on prie pratiquement à chaque ecténie, hein, pour l'union des saintes églises de Dieu. C'est pour ça que nous, dans l'orthodoxie, on ne dira jamais l'église au singulier, on dira les saintes églises. Parce qu'à la fois elle est une, mais à la fois on ne va jamais gommer la multiplicité, la diversité, selon les pays, selon les langues, selon chaque lieu va avoir aussi sa couleur. Donc, ces églises de Dieu qui fait que chaque église locale est une incarnation de l'église universelle et que le corps du Christ ressuscité se retrouve dans sa plénitude dans chaque église locale. Voilà. Et donc, cette idée-là, on la trouve déjà à la fin du 1er siècle, mais quand on y pense, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a tout. C'est ça que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que dans les débuts du christianisme, on a déjà tout, tout, tout. Puis après, on explique. Et quand on regarde, par exemple, qu'on soit en Orient, qu'on soit en Occident, qu'on soit dans le Nord, qu'on soit dans le Sud, qu'on soit en Asie mineure, c'est toujours le même enseignement des apôtres, la même tradition, la même Église qui proclame que le Dieu est le Dieu de l'Ancien Testament, que c'est le Dieu, le Père de Jésus-Christ, et que la mythologie païenne est une absurdité. Voilà. Tout le monde dit la même chose. Que la vérité vient du monde juif, vient de l'Ancien Testament, et qu'elle a été transportée dans les églises qui ont commencé à l'exprimer en grec, en syriaque et en latin. Et que nous, on adore un Christ, un Logos éternel, le Dieu d'avance des siècles, le Verbe divin, qui s'est fait chair, qui a assumé une humanité, voilà, et donc ce qui va devenir petit à petit le credo. Quoi, hein. Alors ensuite, on avait aussi parlé un tout petit peu la dernière fois donc, de cet aspect de consensus. Et alors, je voudrais revenir sur cette idée de consensus parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Il ne faut jamais oublier qu'aucun père de l'Église est infaillible. Aucun. Nous, on ne dit pas qu'il y a une infaillibilité chez les pères. Mais chez aucun, même les plus grands, même un grand Chrysostome, un Grégoire de Nice, même les plus géants, hein, les Maxime le Confesseur, il n'y en a pas un qui n'a pas dit une bêtise.
Origène. Voilà. Du coup, il est passé au crible.
Enfin oui, mais il faut bien comprendre que c'est pas lui, que c'est ses disciples, enfin c'est ses écrits qui ont été.
Voilà, oui.
Mais lui, il a été complètement réhabilité quand même.
Voilà. Mais il a quand même fait le tri.
Voilà, il a fait le tri. Et donc c'est très très important. Il n'y a pas un père qui ne dit pas une bêtise. Pourquoi? Parce qu'on est tous faillibles. Et donc ça c'est très, mais c'est fondamental ça. C'est fondamental. Il ne faut jamais porter au nu. Il ne faut pas être des papolâtres. Voilà, hein, des pères lâtres, enfin je sais pas comment on peut dire en français. Voilà, et on les aime, c'est des géants, on est vraiment des nains sur leurs épaules, c'est sûr, mais ils ont aussi dit des bêtises. Et comment on le sait? Parce qu'à la limite, nous, qui sommes-nous pour juger les pères, quoi? Ben, c'est l'Église qui elle-même a fait le tri, qui elle-même a dit, voilà, ça, ça va, ça, non. Donc l'apocatastase, etc., etc. Bon, on verra des choses en détail, hein, des petits détails, mais... Ils tous ont fait des erreurs. Et que donc, quelque chose qui intervient aussi extrêmement tôt dans l'Église, c'est le consensus. Pourquoi ça et ça, on ne va pas retenir? Et pourquoi tout le monde va retenir voilà, ça et ça, autre chose, hein? Donc ce tri est vraiment... voilà. Et quand on regarde, par exemple, c'est pour ça que c'est important de lire depuis le départ. Quand on regarde Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Justin... Donc là, c'est à 30-40 ans d'écart, hein, que je vous cite. Bon. Et puis ensuite, Origène, et ensuite, bon. Qu'est-ce qui est commun à tout cela? Voilà. Tout ce qui est commun, c'est l'Église. Tout ce qui est un peu des petites idées d'un peu élucubration, là, et que l'Église n'a pas retenu, bon, bah, c'est que c'est pas, Voilà, ça peut être intéressant aujourd'hui, avec 20 siècles de recul, d'étudier de plus près, d'essayer de comprendre, etc. Bon, ça, ça, après, c'est des travaux de chercheurs, mais on n'a pas besoin de le retenir. On n'a pas besoin. Voilà, donc Saint Basile, Saint Athanase, après Saint Grégoire, Saint Maxime, Saint Jean de Massène, et jusqu'à Grégoire Palamas, et puis jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos pères d'aujourd'hui. Hein. Sachant que nous, dans l'orthodoxie, n'oubliez pas, hein, les saints-pères continuent jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc chez les catholiques, ils arrêtent soit à Isidore de Séville, soit à Saint Bernard. Nous, c'est même pas à Grégoire Palamas ou à Nicolas Cabasilas, c'est jusqu'aujourd'hui. Clément, Olivier Clément est un père pour nous.
Oui, voilà. Hein? D'ici 40 ans.
Alors, c'est pas parce qu'il sera peut-être jamais canonisé, c'est pas grave ça, c'est un père. Evdokimov, c'est des. Venez, les Loski, les Bulgakov, les Schmemann, c'est des pères pour nous. Et si vous regardez bien, eux aussi n'ont pas cessé de se rattacher à la tradition en parlant toujours de ceux qui sont avant eux. Quoi. Et que donc, la qualité, la continuité, l'unité de la foi, le consensus, mais c'est aussi que chacun a dit quelque chose dans son propre langage, comme il a donné un trésor vivant sous différents aspects, sous différentes formes. Et que donc, il y a une création dans une fidélité qui va se transmettre de génération en génération. Et c'est ça que nous sentons, et c'est ça qui fait notre force, qui sent qu'aujourd'hui, on est en profonde communion avec eux, dans tous les pays, dans toutes les époques et dans toutes les langues. C'est quand même grandiose, quoi. Et quand vous voyez les églises, les nouvelles églises orthodoxes en Afrique, mais vous êtes estomaqué, quoi. Les icônes, c'est une merveille. Vous dites, mais comment la tradition est arrivée jusque-là ? Et ça s'est transmis. Mais ça, pour moi, c'est un cadeau, quoi. Donc, n'oublions pas, nous n'inventons rien. Ni nous, ni nos prédécesseurs, ni nos suivants, on n'invente pas. Par contre, on crée. Et vous savez très bien que quand on crée du neuf à partir de l'ancien. Toujours. Hein, et d'ailleurs, le Christ le dit, hein, le vrai scribe dans le royaume de Dieu, c'est celui qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Hein, c'est-à-dire du neuf à partir de l'ancien. Et ce neuf, c'est cette qualité de l'artiste qui prend un matériau qui existe autour de lui et qui fait du neuf. Voilà. Mais un vrai artiste, lui aussi, il est dans toute une tradition. C'est très bien, je veux dire, c'est clair. Donc si on veut être des vrais artistes du Saint-Esprit, eh ben, continuons à être bien dans la tradition, quoi. Donc à mesure qu'on va progresser dans les siècles, on va pouvoir approfondir la foi. Il s'agira toujours de la même foi, l'Église une, sainte, catholique, apostolique, corps du Christ ressuscité, jusqu'à la fin des temps, ce don que l'Esprit-Saint nous fait pour son Église et pour que chaque membre se mette en route dans la découverte de cette foi et la vive. Et donc, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est qu'on va essayer de comprendre maintenant comment se sont cristallisées les premières confessions de foi, comment on a au départ dit la foi au départ, puis comment ça s'est cristallisé dans ce credo de Nicée-Constantinople. Et puis, on va essayer de voir aussi comment cette tradition, finalement, elle restera toujours une tradition vivante, parce que c'est pas seulement la foi, j'ai envie de dire, confessée, c'est pas seulement le fait que tout le monde va confesser la même foi, c'est le fait que cette foi, elle remonte jusqu'au Christ, l'Évangile, et qu'on va tous, que le modèle, c'est l'Évangile et le Christ, c'est le modèle absolu, et qu'on va toujours remonter au Christ, comme le logos vivant éternel qui vit ce que nous on essaye de dire en des mots dans le credo de la foi de l'Église, mais qu'on va essayer de vivre aussi, quoi. Et donc il faut qu'on passe d'une découverte de la foi à une foi proclamée et à une foi vivante, vécue, qu'on va nous-mêmes ensuite transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, nos personnes autour de nous, etc. Alors, si on regarde par exemple, vous savez, on parle toujours souvent du kérigme. Hein. Donc on fait souvent référence à Saint Paul. Moi, j'ai remarqué que le Père Cyril d'Argentine, lui, il commence d'abord par Saint Jean, donc ça me va bien. Et Père Cyril, quand il commence à parler du premier credo de la foi, il dit que c'est au moment où Jésus est baptisé qu'il va chercher ses disciples. Dans l'évangile de Jean, il va voir Nathanaël et il lui dit ah ben, en celui-là, il n'y a pas de malice. Hein. Celui-là, c'est un vrai fils d'Israël, il n'y a pas de malice. Et Nathan lui dit, mais comment tu me connais? Et Jésus lui répond, parce que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et à ce moment-là, Nathanaël répond, donc c'est incroyable. C'est là où on voit qu'on est dans une fulgurance de la relation du Christ à la, hein, des apôtres. Il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Première confession de foi d'un apôtre qui est juif et qui, bon, sera probablement, qui est probablement meurt voilà, dans cette relation Christ. Mais on ne peut pas dire que c'est déjà l'Église d'aujourd'hui, quoi, vous voyez. Mais c'est la fulgurance, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. C'est déjà une première confession de foi. Ensuite, quand Jésus interroge les apôtres, qui dit « Pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors, les uns Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et après, Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà. Et Jésus lui dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Donc, on voit bien aussi que la confession de foi des apôtres ne repose pas seulement sur une expérience humaine ou charnelle ou psychologique ou tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui révèle. « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est très 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 important ça. C'est-à-dire que dans toute confession de foi, dans toute adhésion de foi, en tout cas dans l'Église, moi ailleurs j'en sais rien, il y a toujours autre chose que du domaine, j'ai envie de dire, amical, humain, psychologique. Enfin, il y a l'Esprit Saint qui est toujours là et qui fait qu'il a éclairé la personne de l'intérieur. Et finalement c'est peut-être ça, hein, qui est le plus important. Voilà, donc tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Alors, ce qui est très important aussi, et je fais une petite parenthèse, c'est que ça n'est pas sur Pierre que nous reposons notre foi, c'est sur la foi de Pierre que notre foi repose. Ça n'a rien à voir. Et là, on est très différent avec nos frères latins. Ce n'est pas la personne de Pierre qui est importante, c'est la foi de Pierre. Notre roc, notre fondement, c'est la foi de Pierre. Ce n'est pas Pierre lui-même en tant que tel. Et ça, c'est très important. Ça me fait vraiment penser, par exemple, à l'aspect de l'iconographie, où On écrit une icône, mais on ne la signe pas, on s'efface. C'est-à-dire que Pierre, quelque part, il s'efface derrière la foi que le Christ a mis en lui. Quoi. Et c'est sur cette foi-là que toute notre foi orthodoxe s'appuie. Hein. Alors après, évidemment, chez saint Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, « Vous vous êtes tournés vers Dieu pour le servir, le Dieu vivant et véritable, pour attendre du ciel son Fils unique qui est ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, l'idée, c'est servir le Dieu véritable, attendre son Fils unique qui est ressuscité des morts. Voilà, donc ça, c'est déjà une première ébauche. Vous voyez, on est encore un peu loin du credo, mais voilà, on a déjà quelque chose. Bon. Ensuite, dans l'Épître aux Corinthiens, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » Hein, on avait déjà fait l'allusion la fois dernière. Donc, Paul n'est aussi qu'un maillon dans une chaîne. Il reçoit et il retransmet. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est intéressant parce que c'est des termes, exactement ces termes-là, qu'on va retrouver aussi dans le credo. Donc là, on voit des germes, des petits germes de quelque chose qui va s'organiser petit à petit. Et donc on voit que ces petites phrases disséminées comme ça dans le Nouveau Testament, qui sont dans le Nouveau Testament, petit à petit vont être rassemblées pour constituer le credo de la foi de l'Église. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez bien, vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez la résurrection, mais l'Esprit Saint n'en parle pas beaucoup. Et donc, la foi de l'Église va se... Alors que l'Esprit Saint, quand même, il est vachement présent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est très présent. Ah, la Pentecôte, etc. Mais, vous voyez comment c'est présent, on en vit, mais on n'a pas mis encore complètement les mots. Donc, il faudra encore attendre, et pour l'Esprit Saint, encore plus longtemps, hein, puisqu'il faudra attendre Chalcédoine, pratiquement, en tout cas, Saint Basile, quoi. Hein, c'est Saint Basile avec le traité du Saint-Esprit qui a inscrit dans la foi de l'Église que le Saint-Esprit est Dieu. Mais jusqu'à Saint-Basile, il est mort en 379, vous voyez, c'est tard. Jusqu'à Saint-Basile, c'était acquis, c'était dans l'air, si vous voulez, mais c'était pas dit de manière... Donc, ça veut dire qu'il... N'oubliez pas que si toute toute notre foi repose sur les sept conciles, et que le septième concile est du 8e siècle, ça veut dire que pour que la foi de l'Église se définisse, il a fallu 8 siècles. 8 siècles pour que la foi de l'Église se définisse. Mais c'est énorme, 8 siècles. Alors à la fois c'est énorme, à la fois maintenant on a le recul du temps parce qu'on est au 20e siècle, mais n'empêche, c'est pas si simple d'expliquer à un groupe de personnes qu'est-ce que c'est la foi de l'Église, et comment, petit à petit, en se réunissant, ah oui, toi tu crois ça, toi t'es dans ce monde-là, tout le monde se réunit, puis bon, finalement, il y a un langage commun qui va émerger. Mais ça n'a pas été simple, parce qu'il y a eu des ruptures. Donc c'est pas si simple, il y a eu des ruptures depuis le 4e siècle. Parce que les Coptes, les Arméniens, etc., ils n'avaient pas la même manière de dire les choses. On le verra un peu plus tard de manière plus précise, mais c'était un problème de langage. Ils n'avaient pas le même langage. Voilà. Donc on ne se comprenait pas. Hein, donc, bon, voilà. Que je prenne pas trop de... Je ne déborde pas trop. Alors maintenant, si on veut regarder, par exemple... Donc, ce qui fait partie de la tradition de l'Église, c'est donc non seulement la foi, okay, mais c'est la manière dont cette foi va s'inscrire et comment on va entrer dans l'Église, avec ce qu'on appellera, évidemment, non seulement les dogmes, mais les sacrements. Bon, ça, c'est fondamental. Comment les sacrements? Pourquoi tout d'un coup, on a décidé qu'on allait avoir des sacrements pour entrer dans l'Église? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est passé comme ça un beau jour dans la tête de quelqu'un, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été toujours... Alors évidemment, on a le baptême du Christ comme exemple. Donc si le Christ prend la peine d'être baptisé, c'est justement alors qu'il n'en a absolument pas besoin, c'est le seul qui n'en a pas besoin. Donc c'est bien parce qu'il nous donne quand même un exemple. Donc, bon. Mais un des textes les plus anciens sur cette question, c'est le texte des Actes des Apôtres. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Il y a un Éthiopien, un eunuque de la reine de Candace, qui part de Damas et qui va ou qui part de Jérusalem et qui revient. Et l'esprit vient dire à Philippe, toi, il faut que tu ailles sur la route là-bas, il faut que tu ailles voir. Alors je propose qu'on regarde ce texte un peu plus près. Est-ce que vous avez votre Nouveau Testament? Et là, on a aussi une autre clé dans ce texte. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, tout se rattache à l'Écriture et tout n'est qu'un développement de ce qui est déjà contenu dans l'Écriture. Donc c'est le chapitre 8, normalement, si ma mémoire est bonne, des Actes des Apôtres. Hein ?
Verset 26.
Alors, bon voilà, verset 26, merci. Quelqu'un veut le lire ? Alors, je vous écoute.
C'est Philippe, c'est ça ?
Donc l'ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Allez, on va pas mettre une heure quand même.
De 8 heures perdues.
8-26.
Philippe est le fonctionnaire éthiopien, c'est ça?
Alors justement, il ne faut jamais lire les titres.
Jamais.
Jamais. Les titres ne font pas partie de la Bible, donc on ne les lit pas. Ça, c'est très important. Hein. Mais je vous assure, c'est fondamental. Il ne faut jamais lire les titres, ni en public, ni en privé. Jamais. Pourquoi?
Ils ne sont pas toujours donnés...
Parce que n'importe qui peut dire faire ces titres et mettre n'importe quoi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et souvent... Il nous oriente dans une lecture, alors que ce n'est pas du tout ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc surtout, de grâce, barrez vos titres sur vos Bibles, et si vous avez une Bible qui n'a pas de titre, c'est encore mieux. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Bon.
Un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza.
Donc il part de Jérusalem, il va jusqu'à Gaza.
Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt, et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire, chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, et il retourna chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui disait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ?»
Voilà, une première pause. Alors, premièrement, il adore Dieu. Donc, c'est un païen, celui-là ? C'est un païen, cet Éthiopien ?
C'est à la recherche.
C'est qui cet Éthiopien ? Bah, bien sûr qu'il est juif. Bien sûr qu'il est juif. Il adore Dieu.
Il adore Dieu.
Il monte à Jérusalem faire le pèlerinage. Il adore Dieu. Donc il est juif. Très probablement. Enfin, je veux dire, bon. Ou en tout cas prosélyte. Enfin, il fait partie de. Bon. Et puis il rentre chez lui. Ok. Et il rentre chez lui en lisant le prophète Isaïe. Donc il a déjà ses écritures. Donc il est bien.
Hein?
Et il lit, bon, puis. Et au moment où Philippe, donc, c'est un des sept diacres, hein, Philippe, hein, que l'Esprit Saint voit, il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Voilà. Ça, c'est fondamental aussi. Ça me rappelle ce que dit Jésus à un des scribes. Je pense que c'est chez Luc. On essaiera de le retrouver tout à l'heure. Où il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans la loi ? Qu'y a-t-il dans la loi ? Que lis-tu ? Alors pourquoi il y a deux phrases ? Pourquoi Jésus lui dit « Qu'y a-t-il ? Que lis-tu ? » Ça veut dire qu'est-ce que tu comprends ? Quelle est ta tradition d'herméneutique, d'exégèse ? Comment on t'a expliqué ça quand tu étais enfant ? Comment on t'a transmis ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu comprends ? Donc ça veut dire que comprendre fait partie de l'acte de lecture. Si on lit qu'on comprend rien, ça c'est. Donc la première question que Philippe lui demande, c'est comment est-ce que tu comprends ? Et la deuxième chose, c'est comment je pourrais comprendre si personne me guide ? Donc ça veut bien dire que l'acte de lecture lui-même est un acte, on dirait nous en termes chrétiens, ecclésial. Ecclésial, parce qu'il faut quelqu'un qui soit à l'intérieur qui explique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous parlez de comprendre ? Ça veut dire quoi comprendre ? Comprendre quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Vous savez très bien qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Puisque vous êtes. Les juifs savaient très bien qu'il y a les premiers, je crois, quatre niveaux de lecture.
Oui.
Moi, je crois beaucoup de voix, à peu près quatre niveaux de lecture. Et j'ai toujours l'impression qu'on reste toujours à la surface,
oui.
À la vague, et on ne plonge pas.
Oui.
Ça m'a toujours gêné. J'ai toujours l'impression que tout ce qu'on dit, c'est toujours la vague, la vague, la vague, et qu'on ne plonge pas.
Alors justement, ici pour le texte,
c'est le grand problème d'incompréhension, c'est le grand problème des traductions. Quand on traduit, on trahit.
Oui.
Hein, traduction. C'est très bien quelque chose qui a été rajouté, qui a été transformé. Vous savez, les copistes. Hein? Et qu'est-ce qui reste, là, en tunisien, de ce qu'a pu bien dire, vraiment dire Jésus, juif ?
Oui.
Maintenant, qu'est-ce qui reste de ce qu'a pu bien vraiment dû dire Jésus ?
Oui.
Moi c'est mon problème, c'est ma difficulté.
Vous n'êtes pas orthodoxe, vous, apparemment.
Hein? Si.
Eh ben, l'orthodoxie, elle ne dit pas ça. L'orthodoxie, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que le Nouveau Testament, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, ce n'est pas important de savoir qu'est-ce que Jésus a dit ou n'a pas dit, c'est ça là, c'est ce Nouveau Testament, tel que les Saint-Pères l'ont mis dans le canon, qui est pour nous parole de Dieu.
Oui, mais
donc c'est ce que dit l'orthodoxie.
Ce n'est pas important ce qu'a dit Jésus.
Mais bien sûr que c'est important. Ah. Mais je veux dire, on n'est pas là à décortiquer de savoir ça, il l'a dit, ça, il ne l'a pas dit, ça nous est complètement égal. Complètement égal. Et ça, si vous n'avez pas ça dans le crâne, on n'est pas orthodoxe. Je suis désolée, hein, mais ça fait partie de la tradition aussi. La tradition nous explique qu'on n'est pas là à décortiquer le texte en disant « Ah, la première phrase c'est de Jésus, la deuxième c'est pas de lui. » Parce qu'on ne saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est une parole de Dieu que Dieu nous a donnée pour nous aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas le reste. Et donc, il y a des questions, j'ai envie de dire, il y a des questions qui sont interdites, dans un certain sens, qui est de vouloir à tout prix savoir comment ça s'est passé au départ. Ben, on n'y était pas, on n'avait ni enregistrement, ni photo, mais on fait confiance.
C'est bien.
On fait confiance à la tradition de l'Église, à la tradition de l'Église qui nous a transmis ce texte tel qu'il est. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de mettre en pratique aujourd'hui au XXIe siècle. Et quelque part, c'est ça la tradition aussi. C'est fondamental. Et ça, c'est tout le problème notamment des protestants et de certains catholiques, qui ont décortiqué dans tous les sens, qui ont dit ça c'est machin, première vague, deuxième vague, tout, premier Jésus, deuxième Jésus, troisième Jésus. Mais alors, les orthodoxes ne sont jamais entrés là-dedans, mais jamais, jamais, jamais. Ça n'est pas orthodoxe, ça je peux vous le garantir. Hein, ça, c'est... Donc ça, on pourra en reparler, c'est pas le sujet de maintenant, mais ce qui est intéressant ici maintenant, c'est que justement, Philippe, quand il regarde, quand il lui demande, tu lis Isaïe, est-ce que tu comprends ? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le prophète Isaïe, mais c'est quand même assez compliqué à comprendre. Quoi. Voilà. Donc, dommage, on n'a pas l'homélie entière de Philippe. C'est dommage, parce qu'il devait être inspiré. Hein. Bon, continuons la lecture. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Alors, l'homme répondit. Alors, il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis ? L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et, partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Bon, merci. Donc, qu'est-ce que... Alors là, justement, on n'est pas dans une commentaire de surface. On nous parle d'une brebis muette, devant qui l'a-t-on et qui... Bon, on connaît bien le passage, hein, on ne va pas relire Isaïe. Bon, je veux dire.
Alors, on le connaît bien, mais si je peux me permettre, très important parce que c'est l'ouverture, c'est le début de notre liturgie dominicale, enfin de notre liturgie, puisque quand le prêtre fait la proscomédie, ce sont pratiquement les premiers mots qu'il prononce en découpant l'agneau, comme une brebis, il a été mené à l'immolation, et comme un agneau sans tache muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche, dans son abaissement, son jugement a été rendu, et son origine, qui la dira. Ainsi, la transcription des termes qui sont là. Donc je crois que c'est effectivement fondateur de notre liturgie, enfin de notre façon d'être chrétien ensemble.
Absolument.
Et de célébrer les mystères.
Mais Isaïe, il ne parle pas du Christ là, quand il parle Isaïe dans son texte. Il ne connaît pas le Christ, il n'en parle pas. Voilà. Bon. Donc quand Philippe propose dès les Actes des Apôtres, l'an 80 à peu près, hein, donc on est très très ancien. Quand Philippe propose cette lecture-là, il n'est pas dans une lecture superficielle, parce qu'il est en train de dire, tu es en train de parler d'une brebis qui est conduite à l'abattoir, et puis moi je te dis, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Attendez, vous êtes là, vous dites, attendez, quel est le rapport ? Mais pour nous, c'est une évidence aujourd'hui. Ouais. Mais si c'est une évidence, c'est bien parce qu'il y en a eu un premier qui l'a accepté, un deuxième, un troisième, c'est passé jusque dans la liturgie, et puis voilà, et puis voilà. Mais nous, à la limite, c'est le chemin inverse qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se repose la question. Pourquoi c'est une évidence ? Voilà. Parce que entre-temps, Paul a dit, le Christ, notre Pâque, a été immolé, et que l'agneau, par excellence, c'est le Christ. Et que c'est pour ça que nous, on a un agneau avec la prosphore qu'on découpe, etc. Donc tout est une cohérence, mais ça vient de là. Si Philippe ne nous avait pas laissé cette homélie, qu'est-ce qu'on sent ? Alors, peut-être que d'autres l'auraient fait après lui. Hein, il y a des tas d'homélies qu'on a qui ne sont pas dans les Actes des Apôtres. Mais n'empêche. Donc, vous sentez, et celui qui lit, il dit, mais moi, je ne peux pas comprendre si on ne me guide pas. Et donc là, il l'a guidé, il lui dit, voilà, ce que tu es en train de lire, je t'explique, c'est Jésus mort et ressuscité. Voilà. Et pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence. Parce qu'on sait que Jésus, c'est l'agneau immolé jusqu'à la fin du monde. Voilà, parce qu'on a l'Apocalypse, parce qu'on a la liturgie, etc. etc. Bon, donc ça me semble très, très, très important. Et continuons la lecture, parce que qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'il lit la parole, qu'un ancien lui explique, quelqu'un de l'Église qui est le diacre Philippe, qu'est-ce qui se passe après, avant de lire ? Est-ce que vous savez la suite de l'histoire ? Voilà, hein, continue. Alors, donc c'est très important parce qu'on est dans un processus justement de foi et puis de poser l'acte. de la foi. Vas-y.
Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit à l'homme, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux.
Bon, oui. Donc, l'acte de foi qu'on demande, qui semble minimum, là, pour le premier baptême qu'on a dans les actes des apôtres, c'est « Je crois que le Christ est le Fils de Dieu ». Voilà. Bon. Mais on n'a pas tout l'article de foi que nous, on a aujourd'hui, quand on accueille la baptise, et puis la préparation, etc. Donc, vous voyez bien que... On a quelque chose qui est déjà là, le fondement, qui est, je veux dire, Christ, Fils de Dieu, bon, bah, c'est le fondement. Et puis après, on a ajouté des choses au fur et à mesure, justement, des siècles d'Église, qui vont affiner, qui vont être plus précis, qui vont, j'ai envie de dire, former le baptisé de manière plus précise, plus juste, plus... Voilà, c'est plus fin, c'est plus développé. Voilà, c'est un développement de l'affirmation première qu'on a déjà dans les actes des apôtres. Je pense que c'est la tradition, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Tout est contenu en une espèce de quintessence, comme ça, quelque chose qui est très très concentré, et puis petit à petit, on explique, hein, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire la pause, là, parce que ça fait une bonne heure, donc je ne sais plus...
Ça fait une heure.
Enfin, on peut poser des questions. On peut débattre un peu s'il y en a qui... Hein?
Bon, je vois ça. Juste apporter un élément. Tout à l'heure, tu disais que, en particulier dans les évangiles, on ne parlait pas beaucoup du Saint-Esprit.
Oui.
En fait, quand on compte le nombre de fois où le Saint-Esprit est évoqué, c'est quand même souvent.
Oui.
Parce que tout ce que fait Jésus, c'est poussé par l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint, tressailli dans l'Esprit.
Oui, absolument. Voilà.
Alors quand on les compte, ça en fait.
Oui. Ouais. Ouais. Non, c'est ce que je disais même depuis l'Ancien Testament. Mmh.
Ouais.
Et c'est ça qui est mystérieux, c'est qu'à la fois il est très présent, puis à la fois il a quelque chose d'indéfinissable.
Oui,
et que du coup, on va mettre, c'est lui qui va arriver, j'ai envie de dire, au terme, et parce que bon, le mot Trinité n'est pas dans le Testament, et que donc ce mot Trinité, il n'est pas évident, j'ai envie de dire. Là, il y a de l'ordre d'une certaine invention, d'un mot, qui recouvre une réalité qui est déjà là. Hein, voilà, donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne dans la tradition.
Il y est et on ne sait pas comment ça marche, entre guillemets.
Voilà.
C'est pour le dire comme
oui,
ça.
Oui, ben, tant mieux d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, l'esprit souffle où il veut, hein, Nicodème. Hein,
on ne dit pas encore qu'il est Dieu.
On ne sait pas, voilà. Voilà, on ne dit pas, on n'y est pas encore. Voilà, c'est ça.
Voilà. Mais si on dit, mais on le rattache. Il souffle là quand même.
Oui, ouah, Kodesh.
L'esprit de Dieu, mais on ne dit pas qu'il est Dieu.
Ptovna, tout est où dans l'Ancien Testament? Roar, Kodesh. Voilà, l'esprit de Dieu, voilà. Mais voilà. Mais il a fallu attendre Saint Basile avec le traité du Saint-Esprit pour que ce soit affirmé la divinité du Saint-Esprit. Et qu'ensuite, on explique, bon, ça on le verra un peu plus tard, que ce qu'on dit dans le credo, hein, le Fils il est engendré et l'Esprit il procède. Donc ils ont chacun leur manière d'être reliés au Père, la source unique. Avec leurs propres mots à chacun, parce que c'est des personnes distinctes. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça génial. Je trouve que, enfin, franchement, je ne vois pas comment l'Église pouvait être plus géniale. Désolée, mais je suis très convaincue. Non, mais c'est génial. Quand même.
C'est mieux pour nous aujourd'hui.
Non, mais quand on y pense, c'est génial.
Heureusement que beaucoup sont convaincus.
Moi, je trouve que ça renvoie de façon intéressante à la question que tu posais, Bernard. Parce qu'effectivement, c'est bien ce qui nous est arrivé, c'est pas, entre guillemets, c'est pas important que ce soit une relation historique. Cette relation, c'est l'esprit qui est descendu sur tous ceux qui ont suivi et qui ont dit, en fait, le message, c'est ça.
Je ne place pas dans une perspective historique.
Non.
Je me place, à tort ou heureux, parce que j'ai tort, hein, dans une perspective interprétative.
Oui.
Mais l'interprétation, elle a été guidée par l'esprit. C'est ça qui était important et qui fait la tradition à un moment donné.
Mais alors là, s'il fallait parler de l'herméneutique et de l'interprétation biblique, là, il faut faire deux ou trois autres journées en plus, parce que l'interprétation du texte, c'est énorme, quoi, hein. C'est énorme. Et on a raconté beaucoup de bêtises, surtout au 19e et 20e siècle. Oui. Beaucoup.
C'est un peu ce que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est un peu ce que je veux dire. Ouais. Il y a pas mal de bêtises qui se disent.
Mais par contre, l'Église orthodoxe, elle n'a jamais dévié.
Justement, que peut-être par rapport à ça, défricher un peu, et retrouver un peu le sens, le bon sens, par rapport à tout ce que peut se dire, tout ce que bêtises, à toutes ces couches rédactionnelles, etc.
L'orthodoxie n'est jamais entrée là-dedans, c'est ça que je veux dire. Elle n'est jamais entrée là-dedans. L'orthodoxie n'est jamais entrée dans ces couches rédactionnelles, jamais elle n'a parlé de ça. Mais jamais, on le voit nulle part. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Comme si l'Église orthodoxe était protégée de toutes ces élucubrations, de tous ces... C'est surtout en Allemagne que ça s'est passé au départ au 19e siècle. De tout... Et puis est venu quand même du monde protestant, quoi. Parce qu'il fallait décortiquer, Mais pourquoi? Parce que nous, on a reçu... je pense qu'on a une foi qui est vraiment holistique. On a reçu la parole de Dieu entièrement, et que ce que les saints-pères n'ont jamais, ça on en reparlera aussi tout à l'heure, ce qu'on n'a jamais cessé de faire, c'est de faire l'unité du premier verset de la Genèse à l'Apocalypse. Et tout le temps, ils ont fait des passages.
Oui, mais moi, dans ce que j'entends de notre ami, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a des outils d'exégèse, notamment l'analyse historique, bon, qui n'est pas non plus totalement inutile.
Oui, hein. Oui.
Voilà, il y a des éléments... Bulgakov le dit lui-même, c'est vrai, l'Église orthodoxe n'a jamais fait le travail qu'on a fait en Occident.
Oui.
Mais il dit peut-être qu'on serait bien inspiré d'utiliser certains outils pour améliorer la compréhension que l'on a et l'unité que l'on trouve dans la parole de Dieu.
D'accord.
Voilà, il y a peut-être des outils qui ne sont pas inutiles.
Alors après, c'est tout le problème, et c'est pour ça que c'est difficile, c'est qu'après, il y a un discernement à effectuer. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont inutiles, ou des élucubrations qui sont inutiles, il ne faut pas perdre son temps. Et puis, il y a d'autres outils qu'on peut effectivement utiliser, d'ailleurs. Certains, même à l'Institut Saint-Serge, le disent, le père Jean Bray qui le dit dans son livre, non qui peuvent être... Mais alors, du coup, il faut être bien éclairé. Voilà. Il faut bien être éclairé et bien être suivi. Quoi.
Ce sont des outils.
Voilà, pour savoir est-ce qu'on les utilise, comment on les utilise, est-ce qu'ils sont bien dans le contexte de la foi orthodoxe, etc. Donc là, ça commence à devenir compliqué. C'est pour ça qu'il faudrait être vraiment formé à l'utilisation de ces outils et de cette... Bon, moi, c'est mon doctorat, donc c'est pas très compliqué, mais... Voilà, je suis bien placé pour en parler.
Oui. Et puis, vous voulez peut-être parler de l'histoire de la 19e, la source G ou je sais pas quoi.
Oui, la J, Q, J, D, E, P. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on en revient. On se dit ces quatre couches, elles n'ont jamais vraiment existé. Quoi. Donc c'est pour dire que... C'est pour dire que voilà. Et ça, c'est très important aussi. C'est où est la vraie tradition? C'est celle qui dure. Une tradition qui, à un moment donné, fait la une. Vous savez, c'est un peu comme la mode. Ça fait la une pendant un siècle. Et puis, après, ben non, finalement, c'était complètement faux. Voilà. Donc, vous voyez, rien que ça, déjà.
En termes de marketing, la une pendant un siècle, c'est pas mal, quand même. Mais bon.
Ça peut être assez...
Mais c'est exactement ça.
Ouais.
Justement, en disant, il y a quelques années ici, il y avait une petite étude biblique chez les protestants, il y avait une certaine pasteur, alors c'est pas si mille, qui avait dit oui, mais c'est génial parce qu'avec la source machin, grâce à ça, ben voyez, oui, regardez là, on est d'accord avec les musulmans. Alors moi j'avais.
C'est sérieux.
Mais ah ben, là, voilà, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc, suivant sur qui on tombe, ça peut aller un peu loin.
C'est facile.
Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec les musulmans, être d'accord avec les musulmans sur certaines choses, mais ce n'est pas à partir de la source Q, D, E, P.
Avec ça, c'est bon, on est d'accord.
Toutes les portions d'évangile in excelso qui sont dans le Coran, on peut être d'accord avec.
Oui, ça, c'est pas très compliqué.
Voilà,
bon, allez, on va prendre la pause. On se retrouve dans un quart d'heure, ça va ?